Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous. Face aux revendications croissantes et aux dérives violentes, que va répondre, que peut répondre Emmanuel Macron? Aujourd'hui, le chef de l'État a écouté élus politiques et partenaires sociaux. Il interviendra ce soir à 20h pour annoncer les mesures destinées à clore la crise des Gilets jaunes. Reportage à l'Élysée de Thomas Larabie et analyse politique de Stéphane Robert. Mobilisation demain pour la protection de l'enfance. Les travailleurs sociaux du Nord, premier département concerné par le placement d'enfants, parlent de non-assistance à enfants en danger. Reportage de Lise Verbeck. Et puis Theresa May reporte le vote sur l'accord de Brexit. Le gouvernement britannique accélère ses préparatifs en vue d'un non-accord de sortie de l'Union européenne. Nous irons à Londres et à Bruxelles. Emmanuel Macron peut-il, en quelques mots ce soir, réenchanter la France, en faire un pays où l'on pourrait vivre dignement de son travail, un pays où les services publics seraient accessibles à tous, un pays où la retraite ne serait pas synonyme d'appauvrissement? Le chef de l'État aura la lourde tâche, à 20h ce soir, de répondre à des revendications multiples et parfois contradictoires. Conscient de la complexité de l'exercice, il a reçu à l'Élysée des représentants des forces politiques, économiques et sociales. Bonsoir Thomas Larabie.
Bonsoir Aurélie Kiffer.
Le président a consulté. Écoutez, mais il s'est gardé de révéler ce qu'il comptait dire aux Français ce soir.
Effectivement, Emmanuel Macron n'a rien dévoilé de son jeu lors de cette réunion. Une réunion qui ressemblait davantage à une session de doléances pour les corps intermédiaires plutôt qu'à un véritable dialogue avec le président de la République. Emmanuel Macron a écouté les plaintes des uns et des autres pendant plus de 4 heures autour d'un thème central, le pouvoir d'achat. Un effort de forme donc, alors qu'on lui a souvent reproché de faire cavalier seul et de peu prêter attention au dialogue social. À leur sortie, les représentants syndicaux étaient satisfaits d'avoir été conviés à s'exprimer, mais ils attendent désormais de pied ferme le président sur le fond. On écoute Yves Verrier, le nouveau secrétaire général de Force Ouvrière, à sa sortie de l'Élysée.
Je n'ai pu que regretter que, alors que nous étions invités ce matin, hier, la ministre du Travail, dans la foulée du Premier ministre, ait refermé la porte avant qu'on ne puisse l'ouvrir sur la question du SMIC. On a été écoutés. On entendra ce soir, on écoutera ce soir si nous avons été entendus.
Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, a également participé à ce grand calumet de la paix entre l'exécutif et les partenaires locaux et sociaux. Un moment qui sera, elle l'espère, un vrai virage dans ce quinquennat.
Il y a eu un consensus sur le constat d'une France malheureuse, mal en point, qui se sent humiliée, qui se sent incomprise. Et donc nous souhaitons être force de proposition, davantage écoutée, davantage entendue, pour amener du réalisme et du pragmatique dans les décisions prises. Donc attendons ce soir les décisions immédiates et puis retrouvons-nous surtout pour refaire société et retisser du lien là où il a été rompu.
Côté gouvernement, en revanche, c'est silence radio. Aucun ministre n'a souhaité prendre la parole sur le perron de l'Élysée. Il reste donc encore 1h30 pour deviner ce qu'Emmanuel Macron va annoncer. Certains spécialistes évoquent une augmentation du minimum vieillesse, une prime mobilité ou encore un coup d'accélérateur concernant la suppression de la taxe d'habitation et des charges salariales sur les heures supplémentaires.
Thomas Larabie, le chef de l'État, joue sa crédibilité ce soir. S'il veut éviter un cinquième samedi de manifestations et de violences, s'il veut que les Français cessent de soutenir la contestation, s'il veut reprendre le gouvernail, il va devoir se montrer particulièrement habile, lui dont tant de manifestants ne veulent même plus entendre parler. Au cours de son allocution, peut-il faire un mea culpa sans faire perdre la face? Peut-il accéder aux demandes sans avoir l'air de céder à la violence et sans mettre en péril l'équilibre budgétaire de la France? Emmanuel Macron est vraiment sur un fil, Stéphane Robert.
Oui, quelles que soient les mesures qu'annoncera tout à l'heure le président de la République, il lui sera très difficile de répondre aux attentes et d'apaiser la situation. Pourquoi ? D'une part parce que la colère des Gilets jaunes et d'une partie de la population ne relève pas de revendications catégorielles. Il y a certes une question de pouvoir d'achat, mais pas seulement. Au-delà des difficultés à finir les fins de mois qui s'expriment, ce qu'on entend beaucoup chez les manifestants, c'est un appel à la considération et à la dignité, à vivre dignement. Autrement dit, ceux qui se disent gilets jaunes depuis 3 semaines sont les représentants d'une France qui se sent déclassée et méprisée par ses dirigeants. Et celui qui incarne ce mépris depuis 1 an et demi, c'est le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui a laissé s'installer une image de président des riches et qui est perçu comme quelqu'un qui, derrière des discours enjôleurs, mène une politique en faveur des catégories les plus aisées de la population française. C'est pour ça qu'on entend partout, dans les cortèges et sur les ronds-points, Macron démission. Pour ça qu'on voit mal également quel exercice de contrition pourrait inverser la tendance. Par ailleurs, il va avoir un problème de crédibilité parce que depuis 18 mois, il explique qu'il faut garder le cap, que la politique qu'il met en œuvre est une politique sur le long terme, qui doit permettre de redresser la France sur le plan économique, d'en faire le leader de l'Europe de demain et qu'il n'y a pas d'autre choix. Or, s'il annonce tout un paquet de mesures pour satisfaire aux multiples revendications des Gilets jaunes, c'est comme s'il admettait que si, finalement, il y a bien un autre chemin, un autre choix, comme s'il admettait que depuis 18 mois, il ne dit pas tout à fait la vérité aux Français. Et donc, pour résumer, soit ce qu'il annonce sont des mesures perçues comme étant destinées à calmer le jeu, mais pas à changer de cap, et ça n'apaisera pas les manifestants, soit il annonce une véritable inflexion de sa politique, mais là, ce serait une manière de se dédire complètement. On voit donc à quel point l'équation est extrêmement difficile, voire pratiquement impossible à résoudre pour Emmanuel Macron.
Stéphane Robert, la crise des Gilets jaunes a pris de l'ampleur autour de la critique des taxes sur les carburants, mais elle ne doit pas être opposée à la transition écologique. Voilà ce que tente de faire comprendre Brune Poirson en marge de la 24e conférence de l'ONU sur le climat. La secrétaire d'État à la transition écologique demande de ne pas faire d'amalgame et elle assure que l'écologie, ça n'est pas fini en France.
Une des revendications des Gilets jaunes, c'est par exemple d'avoir un travail qui paye mieux, un travail qui ait du sens ou un travail tout court. Et la transition écologique est une des solutions à ce problème-là, puisque c'est potentiellement un vrai relais de croissance pour l'économie française, pour l'économie européenne, et c'est aussi des emplois locaux. Par exemple, l'économie circulaire, c'est 300 000 emplois potentiels dans la gestion des déchets, des emplois qui sont très locaux, qui sont non délocalisables. Et donc, il est essentiel d'appuyer sur la pédale d'accélérateur dans les deux domaines, aussi bien dans la justice sociale, trouver des solutions économiques et politiques aux revendications des Gilets jaunes, tout en gardant le même niveau d'ambition climatique. Le réchauffement climatique, ce n'est pas arrêté du jour au lendemain à partir du moment où il y a eu les premières revendications des Gilets jaunes. Au contraire, je crois que tout est lié et que donc plus que jamais, nous devons être ambitieux.
Il y a comme une tentation de pays du coup étrangers ici de profiter des difficultés françaises pour dire « regardez, c'est compliqué à mettre en place, la preuve en France ».
Oui, c'est vrai, c'est un risque. Tout à fait. C'est un risque et c'est une des raisons pour lesquelles je suis ici, pour expliquer ce qui se passe en France. Et le risque, c'est effectivement que certains et que d'autres pays utilisent la question de la justice sociale, utilisent ce qui s'est passé en France, le réduisent à une question de transition écologique et de taxe carbone mal acceptée pour eux-mêmes freiner leurs ambitions en matière climatique. Ça, c'est un vrai risque et la France tient non seulement à être au rendez-vous, mais à expliquer, à faire la pédagogie de ce qui s'est passé en France.
Brune Poirson, secrétaire d'État à la transition écologique, au micro de Véronique Rebérotte, notre envoyée spéciale à la COP24 en Pologne. Vrais arguments et fausses informations circulent en tous sens autour du mouvement des Gilets jaunes. Et voici cette question, la Russie jouerait-elle un rôle dans le mouvement de contestation? Les autorités russes ont pris la parole pour démentir toute interférence, mais les doutes sont bien réels sur l'activité de certains comptes, soupçonnés de manipuler des informations pour amplifier la crise, Olivier Poujade.
Aucune implication, aucune ingérence dans les affaires d'un pays tiers, y compris la France. Le Kremlin rejette les accusations, mais le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, confirme bien qu'une enquête est en cours pour savoir qui se cache derrière certains comptes. Des fabricants de fake news destinés à jeter de l'huile sur le feu de la contestation des Gilets jaunes. La France ne mentionne pas pour l'instant l'implication d'un pays étranger, mais une entreprise de cybersécurité britannique pointe clairement du doigt, elle, la Russie. Plusieurs centaines de comptes Twitter particulièrement productifs, dont la moyenne de publication se situerait autour de 1500 messages par jour, des comptes qui seraient alimentés depuis le territoire russe. Leur objectif, la diffusion d'images, de vidéos destinées à produire un effet loupe sur la répression du gouvernement français, la propagation aussi de fausses nouvelles volontairement orientées pour nourrir l'agacement des manifestants. Certains de ces comptes seraient également l'œuvre de médias financés directement par la Russie. Spoutnik ou Russia Today sont cités. Leur but serait de mettre en lumière une prétendue faillite de la démocratie. Hier, à l'occasion de crises comme celle du Brexit ou de la Catalogne, aujourd'hui en France, en se servant de la protestation des Gilets jaunes.
Un jeune Gilet jaune va porter plainte à Bordeaux. Samedi, il a participé à la manifestation et a voulu ramasser une grenade lancée par un policier. La grenade lui a explosé dans la main et il a dû être amputé. L'usage des grenades lacrymogènes assourdissantes qui contiennent une charge de TNT a été critiqué la semaine dernière par un collectif d'avocats. Ils ont demandé au Premier ministre de les interdire. La mobilisation lycéenne contre la réforme du bac et Parcoursup se poursuit. Elle a baissé en intensité avec quelques 120 établissements concernés aujourd'hui, dont 40 bloqués. Mais il y a eu encore des heurts. Et alors que le syndicat UNLSD a annoncé un mardi noir dans tous les lycées, la sécurité des enfants est un sujet de forte préoccupation, Cécile de Kervas-Douai.
Oui, bonsoir. D'où la décision de certains établissements de fermer les portes pour éviter, comme la semaine dernière, de devoir confiner les élèves à l'intérieur du lycée. C'est le cas de plusieurs lycées fermés aujourd'hui, par exemple dans l'académie de Créteil. La sécurité des enfants, c'est d'ailleurs le mot d'ordre des parents d'élèves de la PEP qui conseillent aux parents d'interdire à leurs enfants d'aller manifester, voire de les garder à la maison pour éviter qu'ils ne soient blessés. L'autre fédération de parents d'élèves appelle, elle, les parents à se rendre directement avec leur enfant sur les blocus afin d'éviter les débordements, voire la récupération du mouvement lycéen. Surtout, la FCPE, comme l'UNLSD, qui le syndicat lycéen, vous l'avez dit, qui appelle au blocage des lycées demain, dénonce de concert la réponse policière à ce mouvement de mineurs. Des parents d'élèves les ont alertés aujourd'hui parce qu'ils sont restés sans nouvelles ce week-end de leur enfant, gardés à vue parfois pendant 48 heures, sans avoir eu le droit à une assistance juridique, comme c'est normalement la loi. Les méthodes de certaines de ces gardes à vue ont été complètement disproportionnées, condamne le président de la Fédération des parents d'élèves FCPE, avec des jeunes de 15 ans insultés, malmenés, parfois même gazés dans leurs cellules. Sur les réseaux sociaux, des fiches pratiques circulent donc à destination des lycéens pour les informer sur leurs droits élémentaires dans le cas où ils seraient interpellés par la police. Pendant qu'une centaine de personnalités a fait paraître une tribune la semaine dernière sur l'utilisation abusive de flashballs sur des lycéens, des flashballs qui ont blessé des mineurs à la tête à Grenoble, Garges-lès-Gonesse ou Saint-Jean-en-Bray. Depuis le 10 janvier dernier, le défenseur des droits a d'ailleurs saisi l'Assemblée nationale sur le sujet.
Cécile de Kervas-Douai, des étudiants ont rejoint le mouvement lycéen, notamment pour dénoncer la hausse des frais de scolarité annoncée pour les jeunes n'appartenant pas à l'Union européenne. 5 sites universitaires sont restés fermés aujourd'hui, Paris-1-Tolbiac, Paris-3-Sancier, Nanterre, Rennes 2 et Avignon. Mouvement de grève demain chez les travailleurs sociaux. Une manifestation nationale est prévue à Lille. Des cars sont affrétés depuis Paris et d'autres villes pour grossir les rangs. Alors pourquoi Lille? Tout simplement parce que la protection de l'enfance est en grande difficulté dans le département du Nord, l'un des plus pauvres de l'Hexagone. Les professionnels ont entamé ce mouvement de protestation depuis début octobre, mouvement relayé par les juges pour enfants du tribunal de Lille. Cette année, environ 9000 enfants ont été placés en foyer ou dans des familles d'accueil dans le département. Le Nord détient le record des placements devant le Pas-de-Calais et la Seine-Saint-Denis. Et les travailleurs sociaux et médico-sociaux s'alarment du manque de place et des moyens pour accueillir dignement ces enfants, Lise Verbeck.
À Roubaix ou à Tourcoing, chaque éducateur de l'aide sociale à l'enfance a environ 40 enfants à charge. Et ils ont fait le calcul, ils ne peuvent consacrer que 3 heures par mois à chacun. En 13 ans de métier, Marie a vu la situation se dégrader, notamment pour les adolescents.
C'est des enfants qui ont des troubles de l'attachement. Donc des fois, il faut qu'ils montrent que l'attachement, c'est compliqué. Et du coup, ils envoient tout valser vers 14-15 ans. Pour ces enfants-là, le problème étant qu'ils étaient bien placés sur un lieu d'accueil adapté. À partir du moment où ils ont été exclus parce qu'ils ont posé des actes et graves qui ont conduit à leur exclusion, bah là, on a commencé l'enfer de 2 nuitées par-ci, 3 nuitées par-là, une famille d'accueil une semaine, parce qu'en fait, ils se sont retrouvés systématiquement partout en sureffectif. On se rend compte qu'on crée des troubles chez l'enfant, qu'on ne fait pas ce qu'il faut faire pour eux et qu'on va en faire des adultes désinsérés. On a l'impression clairement de jouer sur leur destin et de leur faire du mal.
Le suivi psychologique pour ceux qui en ont besoin est aussi problématique. Les listes d'attente dans les centres médico-psychologiques s'allongent. Philippe est psychologue dans un centre près de Lille.
Moi, j'ai déjà vu des enfants qui, à 4 ans, avaient déjà fait 3 familles d'accueil, 2 foyers. Et c'est vrai que c'est des enfants, c'est des tornades qui sont extrêmement agités, qui sont incapables de se poser. C'est des enfants qui vont parfois rejouer ce qu'ils ont vécu avec les adultes, le rejet qu'on leur inflige. Ils vont soit rejeter les adultes et les figures d'attachement, ou tout faire aussi pour se faire rejeter.
Le département du Nord et le vice-président en charge de la protection de l'enfance, Yves Duzard, dit travailler à recruter de nouvelles familles d'accueil. Mais il veut surtout mettre l'accent sur la prévention.
Si on veut éviter les placements judiciaires, il faut aussi donner le moyen d'aller travailler avec les travailleurs sociaux dans les familles. Et donc, quand il y a un signalement qui n'est qu'à l'état de signalement, et bien d'aller travailler au quotidien avec les familles, d'aller leur donner les outils, de travailler pourquoi pas leur situation de foyer en termes d'économie, en termes de gestion de leur foyer, les relations qu'ils ont avec les enfants, les orienter vers des dispositifs et éviter qu'on en arrive à des situations bien plus préoccupantes où on est obligé d'extraire l'enfant temporairement ou un peu plus longuement.
En 3 ans, 700 lits pour les enfants de l'ASE ont été supprimés. Le département parle de redéploiement pour moitié en soutien éducatif à domicile. Un basculement vers la prévention qu'acceptent les éducateurs grévistes comme Olivier, mais ils dénoncent sa mise en place trop rapide et pas assez préparée.
La prévention, c'est un travail qui se fait de longue haleine. C'est pas sur 5 ans, c'est peut-être sur 10 ans. Il faut garder ces 700 places, on en a besoin, et on met les moyens humains sur la prévention. Et après, on verra que la prévention, elle va marcher. Et petit à petit, on verra qu'il y aura de moins en moins de judiciarisation. Moins les juges seront saisis et moins on aura besoin de places en hébergement.
La section régionale du syndicat de la magistrature a apporté son soutien aux travailleurs sociaux. Les juges pour enfants s'inquiètent des décisions de placement exécutées avec retard, faute de place.
Dossier signé Lise Verbeck. C'est décidément un divorce complexe et douloureux. La livre sterling creuse ses pertes après l'annonce du report du vote sur l'accord de Brexit. Devant la Chambre des communes à Londres, Theresa May a annoncé ce report cet après-midi. Son objectif, tenter d'obtenir des garanties supplémentaires sur l'Irlande du Nord. Et le gouvernement britannique accélère les préparatifs en vue d'un Brexit sans accord, Isabelle Labéry.
Une dernière fois, Theresa May tente de contourner l'obstacle. Puisqu'une centaine de députés s'opposent toujours à son plan, la Première ministre veut tenter l'impossible. Renégocier avec ses partenaires européens, qui eux ne veulent pas, revenir à Londres avec quelques aménagements, notamment sur la question de la frontière irlandaise, et enfin arracher un accord sur ce nouveau texte. Mais quand elle explique qu'elle a entendu les critiques, les députés se lâchent. Theresa May n'avance pas de date pour le nouveau vote, le pays avance à l'aveugle, la crise s'approfondit, l'hypothèse d'une sortie sans accord devient chaque jour plus probable, mais la Première ministre prévient « Si vous choisissez l'option radicale, à court terme, les conséquences économiques pour le pays seront dramatiques. » Dans la foulée de son discours, la livre a de nouveau dévissé.
Isabelle Labéry, un Brexit sans accord devient donc une hypothèse probable, ce qui inquiète évidemment l'Union européenne, Quentin Dickinson.
Oui, inquiets, les milieux européens le sont sans aucun doute. Et comment ne le serait-on pas à leur place? Ils viennent de passer 2 ans à mener à bien la tâche titanesque de rédiger un traité clair et équilibré pour permettre le départ d'un État membre dont la classe politique, tout le long, s'est montrée incapable de définir des objectifs précis et de s'y tenir. Alors ici, c'est vrai, on l'a un peu amer. Tous ces efforts pour aboutir, selon l'expression d'un négociateur désabusé, à assister impuissant au spectacle d'un cheval qui refuse l'obstacle, mais qui n'entend pas quitter la piste. On ne voit du reste pas comment améliorer le texte auquel Theresa May et ses collaborateurs avaient donné leur accord. Il n'y a donc nullement d'espace aujourd'hui pour renégocier quoi que ce soit. Si pour une multitude de raisons contradictoires dans leur finalité, mais convergentes dans leurs effets, le Parlement britannique n'était pas en mesure de ratifier l'accord et que Mme May refuse l'hypothèse d'un second référendum, qui ne pourrait d'ailleurs se tenir avant le printemps, donc après le Brexit, alors le seul aboutissement possible, c'est le Brexit immédiat, brutal et dépourvu de période de transition dès le 29 mars de l'an prochain. Et dans le peu de temps qui reste d'ici là, on ne peut espérer mieux, dit-on ici, que la mise au point de décrets techniques provisoires par branche d'activité économique destinés à atténuer quelque peu la situation chaotique qui ne manquera pas de se produire dans les ports et les aéroports de l'Europe occidentale.
Quentin Dickinson, en direct de Bruxelles. 9 juifs européens sur 10 ont le sentiment que l'antisémitisme a progressé dans leur pays au cours des 5 dernières années. C'est ce qui ressort d'une étude de l'Agence des droits fondamentaux. Le XXe siècle a connu beaucoup de maladies. La seule qui reste incurable est l'antisémitisme, constate le néerlandais Frans Timmermans, qui a présenté cette étude à Bruxelles. La communauté juive doit se sentir en sécurité et chez elle en Europe, déclare le numéro 2 de la Commission européenne. Si nous n'y parvenons pas, ajoute-t-il, l'Europe cesse d'être l'Europe. Le Congolais Denis Mukwege et la Yézidi Nadia Mourad ont reçu leur prix Nobel de la paix aujourd'hui à Oslo. L'occasion pour eux d'appeler à protéger les victimes de violences sexuelles. Ce ne sont pas seulement les auteurs de violences qui sont responsables de leurs crimes, mais aussi ceux qui choisissent de détourner le regard, a affirmé le gynécologue dans son discours de remerciement. S'il faut faire la guerre, c'est la guerre contre l'indifférence qui ronge nos sociétés. Et Nadia Mourad a, elle, plaidé pour les milliers de femmes et enfants toujours aux mains de l'organisation État islamique. S'il s'était agi d'un accord commercial, d'un gisement de pétrole ou d'une cargaison d'armes, a-t-elle déclaré, gageons qu'aucun effort n'aurait été économisé pour les libérer. Demain mardi, le temps sera variable sur la moitié nord de l'Hexagone, assez lumineux au sud et en fin de journée, une nouvelle perturbation pluvieuse gagnera le Finistère. Les températures varieront le matin entre moins 2 degrés dans l'est et 11 près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera de 4 à 8 degrés dans l'est, 7 à 14 en général, jusqu'à 15 à 18 de la Côte d'Azur à la Corse. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.